Eh bien, bonjour frères et sœurs, un très joyeux sabbat à vous tous. Ce ne sont que des mots. C'est une expression courante en français pour minimiser la portée d'une déclaration ou pour affirmer que les mots énoncés ne sont pas forcément liés à la réalité, ne sont pas révélateurs de la vérité. Et puisqu'il y a beaucoup de communication qui tombe dans cette catégorie, nous avons cette expression qui est assez, comme j'ai dit, assez courante. Ce ne sont que des mots. Qu'en pensez de cela? Quelle est la valeur ou l'importance de nos mots? Quel effet ont nos propos sur d'autres personnes? Notre manière de parler en tant que chrétien est-elle importante dans nos vies? Plus important encore, est-ce que notre manière de parler est importante aux yeux de Dieu? C'est le sujet que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Il y a presque 20 ans maintenant, un film est sorti intitulé « Menteur, menteur » avec comme acteur principal Jim Carrey. Et il y avait des aspects de ce film qui étaient très désobligeants. Je ne peux pas dire que j'approuve complètement ce film, loin de là. Mais l'idée sous-jacente était intelligente et fascinante à regarder. Vous l'avez peut-être déjà vu, il s'agit d'un avocat qui gagne sa vie en racontant des mensonges. Il ment pour tous les jours, régulièrement. Il ment constamment jusqu'au jour où il se bloque. Il se bloque parce que le souhait d'anniversaire de naissance de son fils était que pendant toute une journée, son père ne puisse dire que la vérité. Alors, cet avocat perd la maîtrise de sa langue pendant toute une journée. Peu importe ce qu'il a envie de dire, ce n'est que la vérité qui sort de sa bouche. Et comme j'ai dit, c'est parfois assez amusant de voir ce menteur qui ne peut pas maîtriser sa langue et qui dit des choses qu'il ne veut absolument pas dire. Dans ce cas-là, la vérité. C'était amusant. Mais en réalité, quand quelqu'un perd la maîtrise de sa langue, les résultats sont loin d'être drôles. Et nous l'avons tous expérimenté à un moment donné ou à un autre. Les mots prononcés par les gens peuvent être merveilleusement encourageants et inspirants aux autres, mais aussi ils peuvent être incroyablement douloureux, même dangereux au bien-être d'autrui. Quand nous faisons un contrôle de santé, un bilan de santé chez le médecin, probablement il va nous demander d'ouvrir la bouche et il va regarder notre langue. Parce que les médecins physiques peuvent diagnostiquer pas mal de choses en regardant la langue, l'apparence de nos langues. Mais le grand médecin, notre Père Céleste, mesure notre santé spirituelle par la façon d'utiliser notre langue. C'est vrai, la Bible montre que Dieu nous juge, en grande partie, selon la façon dont nous utilisons nos propos, nos mots, quels propos nous tenons, les mots que nous prononçons. Dieu veille, il écoute, et c'est très important à ses yeux. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que l'apôtre Jacques a dû faire face à un problème particulier dans l'Église de Dieu à son époque, l'Église primitive, comme on l'appelle parfois. Et ce problème semble avoir été assez répandu parce que Jacques a choisi de s'adresser à ce problème dans une épître générale, c'est-à-dire une épître qui était adressée à toute l'Église, qui devait être lue partout, plutôt que une épître à une congrégation ou à un individu, comme le sont la plupart des épîtres que nous avons dans la Bible, les épîtres de Paul en particulier. Alors, regardons un petit peu ce que Jacques a dit à propos de ce problème qui semble avoir été assez général dans l'Église au premier siècle. Prenons Jacques chapitre 3, verset 1. Jacques chapitre 3, verset 1. Jacques chapitre 3 verset 1. Mes frères, commence-t-il, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ceux qui prennent la parole dans une assemblée de l'Église sont jugés plus sévèrement par Dieu que ceux qui ne prennent pas la parole. Alors, il semble que ce problème que nous entrevoyons ici par ce que Jacques a dit était que certaines personnes, apparemment pas mal de personnes, se bousculaient, pour ainsi dire, pour prendre la parole dans l'Assemblée. Ou peut-être qu'ils se bousculaient pour essayer d'avoir un poste dans le ministère. Le commentaire biblique Expositors dit de ce verset, de cette situation, que parce que c'était une position respectée de prendre la parole devant les autres, certains voulaient le statut sans être qualifiés ni par une capacité naturelle, ni par un don naturel. Et cela posait problème dans l'Église. Le ministère, ceux qui prennent la parole dans nos assemblées, doivent accorder une attention particulière à ce qu'ils disent. Et nous devons tous faire attention à ce que nous disons. La Bible contient beaucoup d'encouragements et d'avertissements à propos de l'utilisation de notre langage, le langage que nous tenons, les mots que nous prononçons les uns aux autres. Regardons quelques-uns de ces passages. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Ici, nous avons un bon exemple, un exemple que nous voulons suivre. L'exemple de l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé ma parole. C'est une grave responsabilité que d'assurer que la parole de Dieu est utilisée correctement, enseignée correctement, dispensée droitement, comme l'apôtre Paul l'a formulé. Nous devons expliquer fidèlement la Bible. Et ce n'est pas tout le monde qui prend la parole dans notre monde aujourd'hui pour parler de la Bible, qui dispense droitement la parole de la vérité. Considérons aussi ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée. Là, nous avons vu que Dieu a bien noté que cette église de Philadelphie avait gardé sa parole. Ils ont gardé la vérité et ils l'ont appliquée dans leur vie. Ils n'ont pas permis à la parole de Dieu d'être modifiée de son vrai entente, sa vraie entente. 2 Timothée chapitre 2 maintenant. 2 Timothée. Chapitre 2, verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Toujours dans le contexte de ceux qui enseignent dans l'Église, Paul a dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui, voilà la phrase que j'ai prononcée tout à l'heure, qui dispense droitement la parole de la vérité. La vérité, il y a une vérité dans la Bible. La parole de la vérité y est. Et nous devons le transmettre fidèlement. Dire la vérité. Ne pas modifier ce qui est là. Et peut-être qu'une partie du problème qui existait à l'époque de l'apôtre Jacques était que les chefs religieux de l'époque, du premier siècle, les chefs parmi les juifs, ils ne donnaient pas un très bon exemple à propos de comment il fallait dispenser la parole de la vérité, la Bible. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus a corrigé sévèrement les pharisiens à cause de leur mauvais usage de la langue. Matthieu chapitre 23, nous commencerons au verset 1. Voici le mauvais exemple des chefs religieux de l'époque. Et quand les chefs montrent un mauvais exemple, le peuple a tendance à suivre. Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent « et ils ne font pas. Ils ont abusé de leur autorité en prêchant des choses qui ne le faisaient pas eux-mêmes. Ils disaient ce qu'il fallait faire, et apparemment ce qu'ils disaient était juste, mais ils ne l'appliquaient pas, ils ne le faisaient pas eux-mêmes. C'était de l'hypocrisie. Verset 4, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du droit. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi, Maître, Maître ». Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » On ne doit pas prendre comme titre père, comme titre religieux, on ne doit pas adopter ce titre-là. Malheureusement, tous n'ont pas cette compréhension. Un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et il y en a aujourd'hui qui utilisent ce titre-là aussi, directeur spirituel. Ils ne lisent pas ou ils ne comprennent pas ce qui est clairement dans la Bible. Encore une fois, ce que nous voyons ici dans l'exemple des pharisiens, des scribes, des pharisiens, des chefs religieux de l'époque, c'était un mauvais exemple d'utilisation de la langue. C'était courant. Et quand les chefs ont montré cet exemple-là, eh bien, cette attitude, du moins chez certains, s'est glissée aussi dans l'Église. Mauvais exemple, selon parmi les chefs, un mauvais exemple qui affecte l'Église et se glisse à l'intérieur. Ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, malgré nous, parfois cela nous affecte même dans l'Église. Revenons dans Jacques chapitre 3. Poursuivons notre lecture de Jacques chapitre 3. Verset 2. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est un homme parfait. Évidemment, parfait, ça peut dire, ça peut indiquer mûr, quelqu'un qui atteint un certain stade de maturité. Nous comprenons que personne n'atteint la perfection complète dans cette vie. Et surtout en question de parole. Les paroles sont très difficiles à maîtriser. Nous péchons tous avec les mots. Parfois, nous trébuchons tous. Crise de colère, mauvaise attitude, on se laisse piéger, on ne fait pas attention et on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Ceci s'applique à nous tous. Personne parmi nous peut dire « Ah, j'ai pas à faire attention à ce sujet ». Nous devons tous prêter attention. Cela s'applique à nous tous. Jésus a parlé de personnes qui ont des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas, ça c'est dans Marc 8, 18, mais très peu de gens ont des langues qui ne parlent pas. Des yeux qui ne voient pas, oui. Des oreilles qui n'entendent pas, oui. Des langues qui ne parlent pas, non. Tout le monde qui a la capacité de le faire, parle. Et, quelqu'un a dit avec un brin d'humour, la langue humaine n'est qu'à quelques centimètres du cerveau, mais pour écouter certaines personnes parler, on pourrait penser qu'ils étaient à des kilomètres l'un de l'autre. Parfois, il y a peu de réflexion derrière les mots qui sont prononcés. Et comme j'ai dit, nous tombons tous dans ce panneau de temps en temps. Revenons dans Jacques chapitre 1, verset 26. Jacques chapitre 1, verset 26. Jacques a beaucoup parlé de l'utilisation de la langue, ses propos, comment on communique les uns avec les autres. C'était un problème. Et c'est un problème encore aujourd'hui. Jacques chapitre 1, verset 26. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Ça, c'est très frappant. C'est très frappant. Si on n'arrive pas à tenir sa langue en bride, notre religion est vaine. C'est si important que cela, de maîtriser ses paroles? Eh bien oui. Parce que si nous n'arrivons pas à maîtriser nos paroles, nos langues, notre religion n'a pas vraiment de substance. Si nous disons une chose tout en prétendant faire autre chose, eh bien, ça, c'est en vain. C'est en vain, la Bible le dit. Aux yeux de Dieu, contrôler, maîtriser nos paroles est extrêmement important. Extrêmement important. Comme j'ai dit déjà, il nous juge en grande partie par ce qui sort de notre bouche. Regardons un autre mauvais exemple dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Autre mauvais exemple des chefs religieux de l'époque. Marc chapitre 7 à partir du verset 9. Marc chapitre 7, verset 9. C'est toujours Jésus en train de s'adresser aux pharisiens de nouveau. Et il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses de semblables. » Beaucoup d'autres choses semblables. L'idée du corban, c'était un jeu de mots, c'était une manœuvre avec des mots vidés de leur vrai sens pour faire une chose qu'ils avaient envie de faire et éviter de faire, d'assumer une responsabilité que Dieu leur avait donnée. C'est-à-dire, en appelant quelque chose corban, ben, il était dédié à Dieu. Mais on ne le donnait pas à Dieu, on gardait toujours l'usage, mais on l'avait déclaré sanctifié pour à Dieu, et on n'avait pas le droit de le donner à qui que ce soit d'autre sauf à Dieu, mais on pouvait toujours le garder soi-même. Et on faisait ça pour contourner l'esprit de la loi, pour contourner un commandement de Dieu qu'il fallait s'occuper de ses vieux parents. Notre société aujourd'hui est très forte à jouer ce même sorte de jeu, de dire une chose et de en fait vouloir dire autre chose que ce que l'on dit. Nos tribunaux ne cherche plus autant à établir la vérité qu'à respecter les droits des uns et des autres, même si le respect de certains droits obscurcirait la vérité. Et il est facile de trouver des exemples où on utilise mal la langue. En politique, des personnes qui ont des campagnes pour tel ou tel droit, entre guillemets, ben ils se croient permis, tout permis maintenant, en question de langue. On peut mentir si c'est pour la cause. On peut déformer les mots si c'est pour la cause juste. C'est le monde dans lequel nous vivons. La Bible nous encourage à faire très attention à nos paroles, et même que parfois la meilleure chose à faire, c'est de ne rien dire du tout. Regardons Proverbe chapitre 17, verset 28. Proverbe chapitre 17, verset 28. Proverbe chapitre 17, verset 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Même un insensé, quand il se tait, il peut passer pour un homme sage. Et la deuxième partie de ce proverbe, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Très souvent, une bonne chose à faire, c'est de ne rien dire du tout. On ne va pas offenser qui que ce soit si on ne dit rien. Mais le problème, c'est que parfois, on est obligé de parler. On ne peut pas passer toute sa vie à ne rien dire du tout. Nous devons parler. On est obligé de parler. Donc, ce qui compte, c'est pas forcément, enfin, ce qui compte le plus, c'est de bien calculer ce que nous allons dire. C'est de réfléchir avant de parler, afin de pouvoir maîtriser ce que nous disons et ne donner une offense à personne, pour autant que cela dépend de nous. Nous devrions offenser personne. Matthieu chapitre 12. Regardons notre passage qui traite de notre utilisation de la langue, Matthieu chapitre 12. Verset 34. Matthieu chapitre 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Voilà pourquoi Dieu nous juge selon nos paroles, parce que nos paroles révèlent ce que nous avons dans le cœur. Nous pouvons nous repentir, heureusement, nous pouvons nous repentir de mauvais mots, de mots déplacés, mais le vrai repentir implique une amélioration, un changement, n'est-ce pas? Si le vrai repentir ne répète pas constamment la même erreur sans changement, sans amélioration. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas refaire la même erreur fois après fois et prétendre que nous nous repentons. Notre responsabilité est claire en matière de nos paroles. Nos mots sont de bons indicateurs de ce qu'il y a dans nos cœurs. Et nous avons expérimenté ça avec d'autres personnes, des personnes de notre connaissance. Vous avez probablement déjà été avec quelqu'un qui rabâche toujours la même chose négative, toujours la même plainte, tout la même rancune, la même blessure qu'il a subie peut-être il y a 20 ans, 30 ans, toujours en train de rabâcher cela. Et j'espère pour vous, je pense aussi, vous avez déjà été avec quelqu'un qui est presque toujours positif avec ses paroles, toujours optimiste, toujours encourageant. Avec qui préférons-nous passer du temps? Nous préférons passer notre temps avec ce qui nous aide à rester positifs ou à être positifs nous-mêmes. Nos paroles sont une fenêtre vers notre cœur. Et en analysant nos mots, nous pouvons analyser ce qui se passe dans notre fort intérieur. Alors il est bon pour nous, chacun de nous, de nous poser la question, mes propos, mes paroles, qu'est-ce qu'elles disent à propos de moi, mes paroles? Qu'est-ce qu'elles révèlent à propos de mon fort intérieur? Et nous pouvons nous poser la question. Autre chose que j'aime bien faire, moi, pour aller un peu plus loin dans cette réflexion, c'est de dire, et si je posais la question à quelqu'un d'autre, si je me regarde de l'extérieur, pas seulement de l'intérieur, mais si je me regardais de l'extérieur, quelqu'un d'autre qui me voit, qu'est-ce que cette personne penserait à propos de mes paroles? Qu'est-ce que mes paroles révéleraient à propos de mon fort intérieur à quelqu'un d'autre? C'est un excellent exercice à pratiquer de temps en temps. Jacques chapitre 3, revenons dans Jacques encore une fois maintenant. Poursuivons ce que Jacques veut nous enseigner, veut nous rappeler à propos de nos paroles. Jacques 3, de nouveau. Après avoir lu que si nous arrivons à maîtriser parfaitement nos paroles, ben nous sommes arrivés à un grand stade de maturité. Ensuite, il dit verset 3, Jacques 3, verset 3, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. » Le cheval, c'est une énorme bête, c'est un gros animal. Et pourtant, on arrive à le maîtriser, à le diriger, à lui donner des instructions, des ordres, simplement par la mort qui est dans sa bouche. Nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Et ça, c'est tout à fait vrai. Dans notre jeunesse, quand nous habitions dans l'est de la France, mon épouse et moi avons fait de l'équitation. Il y avait une écurie pas très loin de notre maison, c'était pas très cher, on le faisait une ou deux fois par semaine. Et on commençait même à faire quelques sauts en obstacle, c'était très agréable comme sport à pratiquer. Je me souviens très bien d'un très grand cheval, très puissant, qui s'appelait, ou qu'on appelait Nuba. Et dans l'arène, pendant que je montais Nuba, normalement c'était un cheval assez calme, placide, et on le donnait aux débutants le plus souvent, et j'aimais bien monter Nuba, il n'était pas entêté comme l'étaient certains des autres. Mais une fois, un jour dans l'arène, j'ai appris que Nuba avait peur des vestes. Parce que j'étais en selle, j'ai enlevé une veste que je portais, et quand il a vu cette veste du coin de l'œil, il a paniqué. Il a paniqué, il a commencé à sauter, il a foncé à toute vitesse droit vers la clôture, qui devait faire 1,5 m à 1,70 m de haut. On aurait pu peut-être le sauter, mais pas dans les conditions qui existaient à ce moment-là. Alors, un peu paniqué moi-même, j'ai tiré sur les rênes. Les rênes, bien entendu, sont attachées aux morts dans la bouche du cheval. Et au dernier moment, j'ai réussi, non pas à l'arrêter tout de suite, mais au moins à le détourner, à le mettre en parallèle avec la clôture plutôt que d'essayer de le sauter. Et avec un peu de temps, j'ai pu le calmer. Cet animal énorme et puissant, beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant que moi, et sous l'emprise d'une panique, eh bien, j'ai pu le maîtriser à cause du mort qu'il avait dans sa bouche. Et à cause de la prière aussi, j'en suis convaincu. Mais le mort dans la bouche d'un cheval peut détourner cet énorme animal. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent devant impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et il se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. L'idée ici, c'est que si nous arrivons à maîtriser la langue, nous pouvons nous maîtriser tout entier. Si on maîtrise la bouche d'un cheval, on maîtrise le cheval. Si on maîtrise le gouvernail d'un navire, on maîtrise le navire tout entier. Ce qui me rappelle une histoire qui a eu lieu en 1941. Dans cette année-là, il y a eu une des plus grandes et les plus importantes batailles navales de la Deuxième Guerre mondiale et peut-être même de l'histoire. L'Angleterre, cette petite île, dépendait pour sa survie des convois de vivres qui arrivaient principalement des États-Unis et le Canada, des vivres et des munitions. Les Allemands, bien entendu, voulaient étrangler l'Angleterre et ses capacités de guerre, et ils le faisaient principalement en coulant des navires anglais. Par des sous-marins, par des avions, etc. Pour faire cela, pour accomplir cette mission d'étrangler l'Angleterre, la marine allemande avait préparé plusieurs gros cuirassés, plus modernes, beaucoup plus puissants que les cuirassés anglais. Et en 1941, le plus gros de tous, le cuirassé Bismarck, est sorti de son port vers les routes maritimes de l'Atlantique du Nord. Le Bismarck avait un déplacement de 52 tonnes, presque 50% de plus que les plus grands cuirassés anglais. Il avait 8 canons de 38 cm, ça c'est le diamètre de l'obus, vous imaginez la taille, et il pouvait avancer à une vitesse de 30 nœuds. Il représentait un danger fatal pour l'Angleterre, ce gros navire. Alors, quand les Anglais ont découvert sa sortie, presque toute la flotte anglaise disponible s'est dirigée, était alertée pour se converger sur ce navire de guerre très très puissant. Deux croiseurs sont entrés en contact près de l'Islande et le cuirassé Hood, la fierté de la flotte anglaise, a été complètement détruite. Un obus allemand est tombé dans les réserves de poudre à l'intérieur et ce grand cuirassé a sauté comme un pétard. Le prince de Galles a été endommagé également et le Bismarck s'est évadé. 30 heures après, le 26 mai, le Bismarck a été vu par un avion d'observation. Plusieurs vieux avions à torpilles l'ont attaqué. Ces avions étaient si vieux que c'était des biplans encore, avec deux ailes superposées, dans la Deuxième Guerre mondiale, encore des biplans. La plupart de ces avions, lents, démodés, ont été abattus. Mais par chance, ou peut-être pas par la chance, un avion a lancé une torpille qui a touché le gouvernail du Bismarck. Le gouvernail était coincé, les marins à bord ne pouvaient pas le déloger, et à cause de cela, le cuirassé ne pouvait plus faire autrement que de tourner en rond, un grand cercle. Toujours un navire dangereux, mais qui ne pouvait plus s'évader. D'autres navires de guerre sont arrivés, sont dirigés sur les lieux, et le matin du 27 mai, les cuirassés King George V et Rodney l'ont endommagé à tel point qu'il ne pouvait plus se déplacer du tout. Et finalement, 90 minutes plus tard, le Bismarck a été coulé par des torpilles lancées par un navire de guerre anglais, une vedette. Le cuirassé, le plus puissant au monde à ce moment-là, ne pouvait survivre sans un gouvernail qui fonctionnait comme il fallait. Et l'être humain ne fonctionne pas bien non plus, parfois ne peut même pas survivre s'il n'arrive pas à maîtriser sa langue. Des gens importants dans l'histoire ont été détruits, on va dire, à cause de mauvaise utilisation de leur langue. La Bible nous donne quelques exemples de gens puissants qui ont terriblement souffert à cause de quelques mots qu'ils ont prononcés, qui révélaient ce qui se passait dans leur cœur. Daniel chapitre 4. Regardons un exemple dans Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, verset 28. Daniel chapitre 4, verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Il avait reçu un avertissement, mais il n'a pas fait attention. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme des bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et ça a duré apparemment pendant 7 ans. Nebuchadnezzar a dit des choses insensées et Dieu l'a entendu. Il écoute ce que nous disons. Dieu entend. Et, assez souvent, il punit le discours insensé, comme ce fut le cas pour Nebuchadnezzar. Et je suis convaincu qu'il intervient dans nos vies également, peut-être pas aussi directement, pas de manière aussi frappante là, mais quand nous maîtrisons nos paroles, les fruits portés seront meilleurs que si nous ne maîtrisons pas comme il faut nos paroles. Le grand romancier Flaubert a dit, que je crève comme un chien plutôt que de hâter d'une seconde ma phrase qui n'est pas mûre. Évidemment, Flaubert parlait de ses capacités de romancier, de trouver le mot juste, de tourner les phrases comme il fallait pour avoir l'effet désiré. Mais je voudrais vous soumettre, frères et sœurs, qu'il y a un volet spirituel à ce qu'il a dit là également. Nous ne voulons pas dire une chose avant d'avoir eu le temps de bien réfléchir, tourner la phrase comme il faut, le dire avec grâce, nous le verrons tout à l'heure, dire la vérité, mais toujours avec grâce, avec douceur envers d'autres personnes. Nous ne devrions pas dire, ouvrir la bouche avant que la pensée derrière soit mûre et soit mûrement réfléchie. Ce ne sera pas le cas, ce n'est plus le cas de notre époque, et ça va s'empirer avec le temps, la Bible nous dit, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, et nous y sommes peut-être, au moins nous sommes proches, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ça c'est question de parole, n'est-ce pas? Hautains, souvent manifestés par des paroles, blasphémateurs, Ça, ce sont des paroles. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Paroles mal utilisées. Intempérants, cruels. Et la cruauté se pratique parfois par les mots qu'on prononce. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la loi de Dieu, les instructions de Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous voyons que, dans les derniers jours, la communication des gens sera tordue. Les gens vont parler avec arrogance, avec haine. Ils vont parler du haut en bas. Ils vont diminuer les gens par les paroles qu'ils prononcent. Et nous le voyons déjà de plus en plus dans nos sociétés. Nous le voyons dans la politique, nous le voyons dans ce qui passe pour des divertissements, des films, la musique, et ainsi de suite. Ça va devenir de plus en plus mauvais avec le temps qui passe. Et il sera important pour nous en tant que chrétiens de nous garder et de nous laisser entraîner ou emporter par ce mouvement vers le bas. Revenons dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ça, nous faisons l'expérience presque chaque été en Europe, en Amérique du Nord, c'est le cas aussi. Pendant la saison sèche, il suffit d'une cigarette lancée, il suffit d'une allumette, très peu de choses, et toute une forêt peut être détruite, peut être consumée. Une allumette peut déclencher un feu qui brûlera des centaines de kilomètres carrés. Un petit feu peut s'étendre comme cela. Et certains mots ont le même effet. Certains mots qui sont prononcés, de tout petits mots, peut détruire, peut faire une destruction vraiment terrible. Le feu, on a dit, est un merveilleux serviteur, mais un horrible maître. Et ça, c'est vrai. C'est le feu qui nous maîtrise plutôt que le contraire, c'est terrible. Et c'est pareil avec nos langues, avec les mots que nous prononçons. Serviteur formidable, quand nous le maîtrisons, nous pouvons faire beaucoup de bien avec nos paroles. Mais si nos paroles nous maîtrisent plutôt, là c'est la destruction. Là c'est l'hécatombe spirituelle. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. À partir du verset 21. Marc chapitre 7. Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et rappelons-nous, nos paroles indiquent ce qu'il y a dans le cœur. Révèle ce qu'il y a dans le cœur. Les feux, les grands feux, sont fascinants. Quand il y a un feu, quand une maison prend feu, quand un bâtiment prend feu dans une ville, eh bien, souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent simplement pour regarder. On est fasciné par l'ampleur et la force destructrice de ce feu. Les gens viennent de partout regarder brûler un bâtiment. Et le commérage, et comme ça aussi. Le commérage est aussi fascinant. Ça chatouille les oreilles. On veut bien entendre telle ou telle histoire qui était racontée. Et les gens sont fascinés par le commérage, par les mauvaises choses qu'on peut dire des uns à propos des autres. Et parfois, ils viennent de loin. Ils viennent de loin. Il y a une blague que l'on dit dans le centre ou le sud des États-Unis que vous ne m'entendrez jamais répéter du commérage. Alors, il faut bien écouter la première fois. Et malheureusement, parfois c'est la vérité. On doit éviter cette utilisation de la langue et ne pas encourager ceux qui y participent. Il y a des choses qu'on est mieux de ne pas savoir à propos de la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pour son bien qu'on veut savoir ou est-ce que c'est parce que c'est fascinant et comme j'ai dit, ça chatouille nos oreilles. Proverbe chapitre 26, verset 20, utilise cette analogie du feu, encore une fois, à propos de paroles, de commérage en particulier. Proverbe chapitre 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Il y a des gens qui prennent un malin plaisir à attiser ce genre de querelle, de feu, en racontant les uns aux autres juste ce qu'il faut pour attiser la rancune, pour créer des difficultés. Même avec certaines sortes de conflits, il y a des gens qui prennent plaisir. Et on peut réduire l'intensité des conflits, parfois même les éliminer, si simplement on refuse de transmettre le commérage. Les mots peuvent nous blesser de façon très profonde. Et plus on est près de quelqu'un, plus on apprécie quelqu'un, plus ses paroles ont de l'importance sur nous. Regardez le verset 22, Proverbe 26, verset 22. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. On aime bien cela. On aime bien cela. Ça va jusqu'au fond de soi-même. Et si c'est des paroles, si c'est un commérage à propos de quelqu'un d'autre, ça, humainement, charnellement, ça peut être agréable de l'entendre. Si c'est un autre sujet, eh bien ça coupe. Ça nous coupe très très profondément. C'est très pénible. Verset 23. Comme des scories d'argent appliquées sur une base de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Il cache sa haine sous sa dissimulation. Sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La longue fosse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Mais la Bible dit aussi que ceux qui se laissent aller, eh bien, ils vont tomber dans ce même panneau. En revanche, quel est l'exemple que nous devons suivre? Nous ne devons pas participer au commérage de parler mal de quelqu'un. Ah, vous avez entendu ce qu'un tel a dit ou ce qu'une telle a fait? C'est pas juste. Écoute, il doit être motivé par... Et puis, voilà. C'est comme ça que ça s'étend. Mais regardons plutôt Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 6. Voilà le modèle que Dieu nous donne pour notre communication. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours, pas parfois, pas le plus souvent, le but c'est toujours que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Assaisonner de sel, comme un peu de sel ajoute du goût à la nourriture. Pas trop, juste ce qu'il faut. Et ça agrémente énormément les repas. Parfois, les gens sont méchants avec la vérité. Et ils se disent, mais je ne fais que dire la vérité. Et parfois, cette personne a besoin d'entendre mes quatre vérités. Je vais lui dire de quoi il s'agit, hein. Il a besoin de savoir. Moi, je voudrais qu'on me fasse pareil si j'étais dans son cas. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Si la vérité est prononcée avec brutalité et maniée comme une massue, bien personne n'aime être l'objet de cette vérité-là. Et en pratiquant la règle d'or, nous ne voulons pas nous servir de la vérité pour brutaliser quelqu'un. On n'aime pas se faire traiter de cette manière-là. ce ne vient pas de Dieu, nos paroles doivent toujours être avec douceur, avec grâce, comme un peu de sel sur la nourriture. Louis-Philippe Robidoux a dit ceci, « Ne pas mâcher ses mots est bien, à condition de bien ruminer au préalable ses idées. » Ne pas mâcher ses mots est bien, à condition de bien ruminer au préalable ses idées. De bien former une bonne intention avant de dire ce que nous avons à dire. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Revenons dans Jacques, chapitre 3, encore une fois. Nous sommes en train de voir ce que Jacques dit. Jacques, chapitre 3. On va lire un peu plus loin maintenant. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est important à Dieu que nous maîtrisons nos paroles. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et le contexte, ce sont nos paroles. C'est ainsi que devraient être nos paroles. Une bonne conduite, douceur, sagesse. C'est le moyen de montrer notre maturité spirituelle. Quelqu'un qui tient des propos comme ça, c'est quelqu'un qui atteint une certaine maturité. Donc, quand nous parlons, en particulier quand nous parlons des autres, qui ne sont pas là, qui ne sont pas en notre présence, nous devons être très conscients de ce que nous disons. Nous devrions nous poser quelques questions dans notre esprit. On pense dire une chose, eh bien... Posons-nous ces quelques questions. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire cela? Qu'est-ce qui me motive à vouloir partager cette réflexion? Notre motivation est en effet très importante. Est-ce que c'est pour faire du bien? Est-ce que c'est pour encourager? Est-ce que tout le monde sera plus heureux? Est-ce que la personne de qui on veut parler, est-ce que elle serait contente de ce qu'on est en train de dire? Est-ce que ce que je dis est exact? Est-ce que ce que je dis est exact? Et est-ce que je suis sûr que ce que je dis est vrai? Ça, c'est une partie du mal qui est fait par le commérage, c'est qu'on raconte, on m'a dit que, mais on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Et si on n'est pas sûr que c'est vrai, hein, il faut faire attention en le partageant. On ne devrait pas non plus colorer ou déformer les faits, comme cela se fait très facilement. Nous étions au Rwanda récemment en train d'enseigner quelques rudiments d'anglais à nos frères et sœurs là, et on a joué le jeu de téléphone. On met des personnes dans une file, on chuchote quelque chose dans l'oreille de l'un, il le répète à l'autre, et quand on entend ce que dit la dernière personne, c'est complètement déformé, complètement différent. Pardon. Ça se fait automatiquement, à notre insu même. Donc on doit faire très attention à ce que l'on dit. Est-ce que ce que je dis est vraiment exact? Est-ce que je suis sûr que c'est exact? Si ce n'est pas le cas, peut-être que je devrais ne pas le dire. Est-ce que je sais avec certitude que ce que je dis est vrai? Il est tentant parfois d'affirmer que nous savons à coup sûr ce que nous sommes en train de dire, quand en réalité, c'est simplement un bruit que nous avons entendu. Et ça peut être extrêmement blessant pour d'autres personnes. Voilà le genre de questions que nous devrions nous poser avant de parler d'autres personnes. Pour ne pas mentir, ne pas dire une chose qui est fausse, prétendant que nous savons, et pour ne pas blesser, pour tenir ce langage avec grâce, assaisonné de sel, comme la Bible nous encourage à le faire. Éphésiens chapitre 4, verset 29. D'autres conseils que la Bible nous donne à propos de nos paroles, l'usage de la langue. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce, encore ce mot à propos de notre communication, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voulez dire que si on communique mal, cela peut attrister le Saint-Esprit? Ça attriste Dieu de voir ses enfants communiquer d'une façon qui n'est pas convenable à des chrétiens, à des enfants de Dieu. Cela attriste Dieu. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, parlez mal les autres, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est un peu un test pour nous, frères et sœurs. Si on le considère comme un test, qu'est-ce que notre note? Quelle note est-ce que nous allons recevoir? Est-ce qu'on aurait une bonne note ou une mauvaise note? Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté, est-ce que ça a disparu? Ou est-ce que parfois on est encore en lutte avec ces attitudes-là? Nous pouvons demander l'aide de Dieu. Nous avons déjà établi que c'est très important aux yeux de Dieu que nous maîtrisons nos parole. Et par la force de son Saint-Esprit, il peut nous aider à faire cela, à être plus intentionné vis-à-vis de nos paroles, d'être plus alerte, plus au courant de ce que nous disons et comment nous communiquons les uns avec les autres. Et c'est une chose que nous devrions faire, demander l'aide de Dieu pour mieux faire, pour nous améliorer dans l'usage de la langue. Regardons pour terminer Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Verset 20. Proverbes chapitre 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les bons fruits ou les mauvais fruits, selon ce qui nous fait plaisir. Et nous devons évidemment prendre plaisir à la communication, à la façon divine, communiquer comme Dieu nous dit de le faire. Il y a une récompense que Dieu nous promet quand nous arrivons à contrôler nos paroles. Cela fait une énorme différence dans nos vies et dans les vies de nos proches. Nos mots peuvent améliorer la qualité de la vie à la fois physiquement et spirituellement. Et c'est cela que nous devons viser. Et la bonne chose, c'est que nous pouvons pratiquer cela tous les jours. Tous les jours, nous avons l'occasion de pratiquer et de nous améliorer. Nous devons simplement nous fixer le but de bien maîtriser la langue.